Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il entrera dans toutes les affaires parce qu'il n'avait pas la force de résister à ceux qui l'entraînaient. Il en sortit toujours avec honte parce qu'il n'avait pas le courage de les soutenir. Voilà ce que dit le cardinal de Richelieu au sujet de son fidèle ennemi Gaston d'Orléans. Influençable, lâche, trublion, sans cervelle. Depuis sa mort, le frère de Louis XIII a très mauvaise réputation. Derrière la légende noire, il est surtout un prince avide de liberté. Gaston d'Orléans est né à Fontainebleau en avril 1608. Il est le troisième fils d'Henri IV et de Marie de Médicis après Louis et Nicolas. Deux ans après sa naissance, son père est assassiné par un fanatique catholique, Ravaillac, et son grand frère devient roi sous le nom de Louis XIII. Comme celui-ci n'a que 8 ans, c'est la reine-mère Marie de Médicis qui exerce la régence. Le deuxième frère, Nicolas, meurt l'année suivante. Gaston devient duc d'Orléans et prend le titre de monsieur, monsieur frère du roi. Mais surtout, le voilà désormais le plus proche héritier de Louis XIII. Dans la famille, les relations sont compliquées. Gaston est le chouchou de Marie de Médicis, peut-être parce qu'il ressemble à son père. Quoi qu'il en soit, lui, comme sa mère, ont du mal à s'entendre avec Louis XIII. Il faut dire qu'en avril 1617, le roi se rebelle contre elle en faisant assassiner ses proches conseillers, Concino Concini et son épouse Leonora Dori, surnommée la Galigaille. C'est avec cette guerre de la mère et du fils que débute vraiment le règne de Louis XIII. Marie de Médicis est envoyée en exil à Blois, tandis que son conseiller Armand-Jean du Plessis de Richelieu organise la réconciliation. Élevé à la fonction de cardinal, Richelieu devient le principal ministre du roi en 1624. Gaston grandit au milieu de ses troubles. Élevé par des précepteurs originaux, il profite de sa jeunesse durant laquelle il a un peu fait le fou, raconte le poète Talmant des Réaux dans ses écrits. Ado rebelle, il connaît par cœur toutes les chansons à boire et bon nombre de poèmes érotiques. Il fait les 400 coups avec ses compagnons qu'il surnomme son conseil de vaurienerie. Devant le libertinage de son frère, Louis XIII est scandalisé. C'est décidé, il faut le marier. Alors que Gaston d'Orléans rêve d'une princesse étrangère pour asseoir son autorité en Europe, on lui trouve une fiancée en la personne de Marie de Bourbon-Montpensier. Sa famille est aussi noble que sa fortune, mais elle est d'une laideur incontestable. Oh non, Gaston n'est pas le seul à faire preuve de réticence. Un parti de l'aversion au mariage se constitue avec divers protagonistes. La reine Anne d'Autriche, qui ne veut pas affaiblir sa position, la duchesse de Chevreuse, grande ennemie de Richelieu, ou encore le prince de Condé, deuxième dans l'ordre de succession après Gaston. Mais la conspiration arrive aux oreilles du roi. Furieux, celui-ci frappe un grand coup en faisant arrêter les coupables, dont le maréchal d'Ornano, précepteur de Gaston, en mai 1626. Le prince est pardonné. La cour gagne Nantes et le mariage tant contesté est célébré. Gaston obtient les duchés d'Orléans et de Chartres, ainsi que le comté de Blois comme apanage. Moins d'un an plus tard, l'épouse non désirée décède prématurément après avoir donné naissance à une fille, Anne-Louise d'Orléans, qu'on surnommera la Grande Mademoiselle. Les intrigues se jouent et se déjouent à la cour. Avec la journée des dupes de 1630, Marie de Médicis est encore mise sur la touche. Gaston d'Orléans ne supporte pas cette trahison envers sa mère et l'année suivante, il annonce à Richelieu qu'il renonce à son amitié. Il se réfugie en Lorraine, chez le duc Charles IV, en guerre contre la France, et publie depuis Nancy un manifeste contre le cardinal qu'il décrit comme un prêtre inhumain et pervers, pour ne pas dire scélérat et impie, qui a introduit dans le ministère la perfidie, la cruauté et la violence. Il l'accuse d'être indifférent à la souffrance du peuple et se pose en défenseur de la liberté et de l'état de droit. Libre, Gaston d'Orléans l'est de tout son cœur. Les alliances matrimoniales sont le fruit d'entreprises diplomatiques, surtout lorsqu'on est l'héritier de la couronne, mais il n'en a que faire. Rebelle, vous l'avez compris. Le duc n'écoute que son cœur et épouse en seconde noces Marguerite, la sœur du duc de Lorraine. Avec le duc de Montmorency, puissant gouverneur du Languedoc et l'aide de sa mère, Gaston d'Orléans monte une coalition qui échoue lamentablement à Castelnaudary en septembre 1632. Alors que Montmorency est décapité à Toulouse, eh ben oui, l'effet de trahison, ça rigolait pas, oui. Gaston d'Orléans, ben c'est le frère du roi, est une nouvelle fois pardonné. Ce n'est pas une raison pour se tenir à carreau. 2 ans plus tard, il flirte encore avec les ennemis de la France en signant avec l'Espagne un traité secret contre Richelieu. En 1638, alors qu'on ne l'attendait plus, après 23 ans d'union stérile, arrive le premier bébé du roi et de la reine. C'est un miracle. Au revoir et merci Gaston d'Orléans. C'est le futur Louis XIV qui devient l'héritier de la couronne d'un royaume de France bien agité. Richelieu continue d'humilier les grands du royaume. Grâce à son réseau de renseignements, il démantèle les complots qui se nouent contre lui, comme celui du marquis de Saint-Marc, dans lequel trempe Gaston d'Orléans en 1642.
Et il n'arrête pas.
Et 5 mars va payer cher, lui aussi, alors que c'était le favori du roi. Quelques mois après cette énième tentative d'assassinat, Richelieu meurt, laissant la place à un autre cardinal, italien cette fois, Mazarin. Ce dernier permet le retour en grâce de Gaston d'Orléans. Le prince se réhabilite alors par ses campagnes militaires victorieuses contre les Espagnols. En 1648, s'achève la guerre de 30 ans. Enfin, un peu de répit, mais pas à l'intérieur du pays. Mazarin veut maintenir le Parlement dans l'obéissance et provoque le soulèvement des princes. Notre éternel comploteur est toujours au rendez-vous et navigue d'un parti à l'autre. En 1652, après avoir maté la fronde, Mazarin envoie Gaston en exil dans son château de Blois. Ces princes rebelles, il ne peut plus les voir en peinture. C'est dans son château de Blois, où il est exilé après l'échec de la Fronde en 1652, que Gaston d'Orléans termine sa vie. Il a confié les travaux à l'architecte François Mansart, qui en a fait un joyau de l'art classique. Pilastres, colonnes, chapiteaux et frontons rappellent l'architecture grecque antique et annoncent déjà le style de Versailles. À Blois, on lui doit aussi la chapelle des Jésuites au pied du château et l'hôpital général du faubourg de Vienne qui témoigne de son dévouement à la cause des pauvres. Il n'avait rien, sans exception, de tout ce qui peut distinguer un grand homme, écrit à son sujet le cardinal de Retz dans ses mémoires. Contrairement à l'image écornée par ses détracteurs, Gaston d'Orléans a toutes les qualités d'un grand prince. Mécène, collectionneur, humaniste, féru d'antiquité, il se constitue un cabinet de curiosité avec des œuvres d'art, des médailles, des cartes, des estampes et une belle collection de plantes peintes sur vélin qui serviront aux botanistes de l'Académie des sciences. Il protège les artistes, comme Molière, encourage les sciences et s'entoure des savants de son temps. C'est pourtant dans une indifférence royale que meurt Gaston d'Orléans le 2 février 1660. Louis XIV n'apprend la nouvelle que 8 jours plus tard et ne peut interrompre les réjouissances prévues pour célébrer ce jour-là le traité des Pyrénées signé quelques mois plus tôt. Pour sceller la paix avec l'Espagne, son mariage avec l'infante Marie-Thérèse est fixé pour le printemps. Il n'a donc pas le temps de s'occuper de la mort de cet oncle encombrant. Dans les villes du royaume résonne parfois le même jour et dans les mêmes églises, requiem pour le prince défunt et te deum pour la paix. Une salle, deux ambiances. Dans son oraison funèbre, Jean-François Senot, futur général de l'ordre des oratoriens, écrit que le prince est attaché à la justice et au maintien de la liberté du peuple. En septembre 1663, Jean de La Fontaine se rend au château de Blois et ajoute que « les peuples de ces contrées le pleurent encore avec raison. Jamais règne ne fut plus doux, plus tranquille ni plus heureux que l'a été le sien. Et en vérité, de semblables princes devraient naître un peu plus souvent ou ne point mourir. » Le prince a au moins évité une mort atroce comme celle du comte de Chalais avec qui il conspirait contre Richelieu en 1642. Le bourreau a dû s'y reprendre à 29 fois pour lui trancher la tête. Gaston d'Orléans, lui, s'est éteint dans son lit, la tête sur ses épaules. Prince rebelle, certes, mais prince quand même. Et on ne coupe pas la tête d'un prince. Enfin, pas encore.
Pas encore, Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.